On va vous parler d'IA qui font de l'humour et qui font des présidents. On a aussi un défi, essayer de dire du bien de X, alias Twitter. Et enfin, on va parler du marché des mobiles qui est un peu terminé. Enfin, plus ou moins, on va vous expliquer ça. C'est le Rendez-vous Tech numéro 528 et on est en août 2023. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. C'est un épisode fort sympathique de fin d'été. Il fait un petit peu frais, mais il y a du soleil, l'ambiance est bonne. Donc, l'émission sera bonne aussi. Je suis Patrick Béja et je suis accompagné pour cet épisode de Jérôme Marin, une nouvelle fois, qui nous vient... Alors, qu'il n'était plus à SF à San Francisco depuis longtemps, là. Là, t'es revenu depuis un moment.
Ça fait 4 ans maintenant, oui. Comment ça fait, oui.
Tout va bien avec la newsletter Café Tech.
What? Tout va très très bien, on reprend le mardi prochain, donc voilà.
Donc t'es déjà au boulot là à fond, là, ça y est, t'es parti.
Oh là, je suis encore en vacances, mais on va s'y remettre bientôt. Oui.
Mais tu es venu des vacances, tu as fait le voyage de tes vacances, juste pour être avec moi.
On va dire ça, voilà.
Oui, c'est mais vraiment... oui, non, mais si, faut, tu vois, créer une sorte de dramaturgie dans la création de contenu. Exactement. Sur Internet. Tu vois.
J'étais à la plage et là, je suis sorti de la plage.
Bon, merci d'être là avec nous. Merci également aux patriotes qui ont rejoint le groupe de l'élite de la nation, messieurs, dames. Léandre Mancel. Alors, je connais les vaches, hein, je vis à la campagne, donc je vais le faire un petit peu mieux. Un petit peu mieux. Non, c'est pas top. Il y a aussi Nimo XGM, Romain Leclerc, Purple Fox et les producteurs de cet épisode, Julien D et Wakatp. Faut bien le dire. Merci à vous tous et à vous toutes de soutenir le Rendez-vous Tech financièrement. C'est grâce à vous que l'émission existe et que je peux faire ce genre de pitrerie parce que, croyez-moi, chez les gens sérieux et les journalistes sérieux, ça n'est pas autorisé, ce genre de choses. Donc, heureusement qu'on a à côté Jérôme qui prête son sérieux et son expertise à cette émission. C'est le genre de choses que j'apprécie et j'apprécie énormément les patriotes qui me permettent effectivement d'être ce que je suis. On va dire ça comme ça. Allez, on se lance tout de suite dans les sujets à retenir cette semaine avec un petit peu d'IA, mais un petit peu d'IA. Alors, je ne vais pas dire pas comme les autres, mais il y a plusieurs choses dont je voudrais vous parler aujourd'hui. D'abord, l'IA. Un article qui m'a vraiment frappé, qui est un article qui explique la manière dont une équipe de chercheurs de différentes universités a réussi à utiliser notamment de la technologie liée à l'IA pour lire alors c'est pas tout à fait les pensées des personnes, mais les paroles des personnes et comprendre du coup ce qu'elle disait et ensuite faire parler un avatar donc virtuel qui parlerait idéalement si la personne a perdu sa voix mais avait des enregistrements disponibles, donc avec une voix de la personne recréée par IA et carrément un avatar qui pourrait potentiellement lui ressembler. Donc tout ça, il y a de l'IA à différents niveaux. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est donc grâce à des électrodes évidemment qui sont implantées dans le cerveau, le fait que l'IA permette de mieux comprendre les signaux électriques émis par le cerveau pour recréer une parole alors que la personne est privée de la parole. C'est une personne qui l'a perdue, qui est soit peut-être même muette, ce genre de choses. Alors, ce genre de technologie existait déjà, mais d'une part, c'est beaucoup plus rapide. On a une vitesse qui est de 60 à 80 mots par minute. C'est à peu près la moitié de la vitesse de langage d'une personne qui va parler normalement. Donc, c'est vraiment quelque chose de notable. Hein. C'est-à-dire que c'est un discours qui est peut-être un petit peu lent, mais qui est tout à fait envisageable à avoir dans une conversation normale. Et puis surtout, il y a eu des sessions d'entraînement qui sont relativement longues. C'est quand même, on a une centaine d'heures d'entraînement avec, on va lire des phrases et puis on va essayer de faire en sorte que l'IA reconnaisse les mots associés, etc. Mais le résultat est assez bluffant et pour une fois, c'est de l'IA utile. Je trouve, enfin, non que les autres soient inutiles, mais il y a quelque chose d'un petit peu particulier dans cette utilisation-là qui semble apporter véritablement quelque chose à l'humanité, quoi. Y a ça d'une part, et puis il y a un autre projet dont je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il a fait beaucoup de bruit ces derniers jours sur Internet, en tout cas moi j'en ai beaucoup entendu parler, c'est le projet de Defend Intelligence, alias Anis Ayari, qui est un petit peu, là encore, une sorte d'aboutissement de tous les différents éléments de l'IA générative qu'on a vu éclore cette dernière année. Il a mis tout ça ensemble, il a mis beaucoup de code à lui, qu'il a programmé d'ailleurs en direct sur sa chaîne Twitch, et il a créé un avatar du président Macron qui parle avec la voix de Macron et qui répond aux questions du chat 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours, il l'a laissé, et donc il avait sur son ordinateur à lui, personnel, hein, cette série de programmes qui tournait, et non seulement il répondait avec la voix, mais il y avait en plus un avatar animé qui parlait avec donc l'animation labiale qui correspondait à ce qu'il disait. Alors il y avait des coupures, c'était pas parfait, mais ça marchait, je trouve, vraiment bien. Alors ça va pas vous surprendre qu'on entende une voix. Je vais essayer de vous mettre un exemple de ce qu'a mis Anis.
Alors, si Pet est tombé à l'eau, il ne reste plus que répète sur le bateau, évidemment. Mais bon, j'espère qu'ils avaient des gilets de sauvetage, parce que la sécurité, c'est important, même pour les blagues. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Eh bien, je dirais que c'est un banane timide dans une file d'attente pour les toilettes.
Alors, bon, c'est pas incroyable au niveau de la reproduction de la voix. On a déjà entendu des choses à peu près équivalentes. Mais il faut bien comprendre que c'était donc une sorte de marionnette Macron qui répondait en direct aux questions sur Twitch. Il a continué et il continue à continuer le projet. Il a fait également le général de Gaulle avec une image qui est...
...perdait en conjecture sur l'existence de Dieu.
Mais donc là, la question, c'est avez-vous conscience d'être une intelligence artificielle ?
Une époque où les hommes se perdaient en conjecture sur l'existence de Dieu. Mais pour répondre à votre interrogation, sachez que je suis une intelligence artificielle consciente de ma programmation et de ma nature.
Alors, il y a énormément de travail là-dedans pour avoir les bons prompts. On imagine qu'il utilise genre peut-être des chats GPT ou un équivalent en local, des outils d'animation. Et donc, on a la vidéo en direct sur Twitch qui répond aux questions qu'on lui pose sur Twitch. Et de temps en temps, Anis intervenait sur le live parce qu'il y avait un truc qui cassait, il devait modifier le prompt, il devait corriger un petit problème avec de la RAM qui était saturée ou ce genre de choses. Il arrivait sur le live, c'était marrant. Et le résultat est évidemment, à ce stade en tout cas, complètement artificiel. Et on sait de quoi il s'agit. On ne pense pas du tout qu'il s'agit du vrai général de Gaulle ou du vrai président Macron. Mais je ne sais pas, là aussi, je trouve qu'il y a un aboutissement, une confluence de tous les éléments qui est assez fascinante dans cette application. Je ne sais pas si ça t'a impressionné aussi, Jérôme.
Non, j'avais vu passer, mais je n'avais pas écouté, pour être très honnête. Mais c'est vrai qu'en fait... on se rend compte, si c'est une personne tout seule qui arrive à faire ça de son côté, qu'est-ce que pourront faire de vraies équipes de chercheurs qui seront ou d'ingénieurs en IA qui seront voilà, qui auront plus de ressources, plus de moyens pour pouvoir et c'est assez inquiétant en fait à la fois. C'est fascinant en tant que technologie. On voit les progrès ultra rapides qu'on voit depuis moins d'un an d'aujourd'hui. Mais c'est aussi assez inquiétant, je trouve, en termes de ce qui va se passer après, quoi. De comment on va pouvoir falsifier et assez facilement des hommes politiques ou autres. Et ouais, donc ça pose quand même des grosses questions, je pense, d'éthique ou de contrôle, en tout cas.
Ouais. Il a fait aussi Chirac de 96. On peut écouter comme ça.
Avec calme et sang froid. Contrairement à certains de mes prédécesseurs.
C'est moins bon, je trouve.
J'ai fait appel à l'intelligence et à la diplomatie pour trouver des solutions.
Une chose intéressante que disait Anis, comme le fait remarquer la chatroom, un truc qui était au niveau sociologique presque hyper intéressant, c'est que les gens tutoyaient Macron et vous voyez le général de Gaulle. C'est assez drôle. D'une manière générale, il a été assez malin. Il a fait des scripts, ou des prompts en tout cas, qui ne sont pas polémiques et qui vont gentiment, on va dire, faire du roast des gens qui posent les questions. On va dire qu'ils se moquent gentiment des gens qui posent des questions. Donc, ça reste relativement bénin.
Bon enfant.
Comme, bon enfant, voilà. C'est plutôt rigolo, c'est comique et ça ne va pas plus loin. Je crois que ce que tu dis, évidemment, c'est la première chose qui va venir à l'esprit de beaucoup de gens. Entre parenthèses, il dit que le prochain, c'est Elon Musk qu'il va faire. Ça va changer de la politique. Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça va changer de la politique, Elon Musk? Mais disons que ce que tu dis, effectivement, on s'en préoccupe depuis longtemps, on s'en inquiète depuis longtemps, et là, ça se concrétise. Jusqu'ici, c'est très bon enfant, quand même. D'autres utilisations intéressantes de l'IA qui deviennent, là encore, concrètes. Il y a deux choses que je veux noter encore. D'une part, des comiques. Là, c'était de l'humour, hein, parce que vraiment, c'était des blagues en permanence. Alors, plus ou moins de qualité, hein, mais c'était des blagues en permanence, les vidéos, comment on peut appeler ça, les marionnettes d'Anis. Et là, il y a des humoristes aux États-Unis qui utilisent l'IA de différentes manières pour faire de l'improvisation, pour faire des concours entre eux, qui peut faire les meilleures blagues, une IA que certains comiques ont développée eux-mêmes ou eux-mêmes. Et généralement, ce qui est marrant, c'est que les gens votent pour l'IA plutôt que pour le comique, c'est plutôt drôle. Il y a un article que je mettrai dans la newsletter, comme je l'ai fait par le passé, qui détaille l'utilisation de l'IA par des comiques, vraiment des comiques. On parle de stand-up aux États-Unis, hein, qui sont à la pointe de toutes les nouvelles technologies pour vous faire rire. Et il y a aussi un truc intéressant, c'est l'outil d'un groupe de presse qui inclut différentes publications comme Macworld, PC World, Tech Advisor, etc., qui a entraîné une IA dédiée sur toutes ces publications et les articles de toutes ces publications pour permettre aux utilisateurs de poser des questions et que l'IA puisse répondre sans avoir, disons, une IA hyper généraliste, mais vraiment focalisée sur le sujet qu'il couvre, en l'occurrence la technologie. Je suis allé sur l'outil. Je pense qu'il n'est pas disponible en Europe parce que malheureusement, il ne s'affiche pas chez moi. Donc, je ne peux pas le tester moi-même. D'après les journalistes de The Verge, ce n'est pas toujours super concluant. Mais je trouve ça intéressant comme manière d'utiliser parce que là encore, c'est l'aboutissement d'un truc qui est les IA spécialisées qui ne sont pas des IA entraînées sur tout Internet, mais sur un truc spécifique qui permet de mieux contrôler le type de réponse qu'on va avoir.
Et qui permet, enfin, plus que même contrôler, c'est que vu que c'est plus spécifique, on n'a pas besoin de les entraîner autant finalement. Et donc on n'a pas besoin de capacité de calcul, on n'a pas besoin de payer autant pour les entraîner. Donc ça ouvre la porte en fait à plusieurs, enfin à de nombreuses personnes qui pourraient le faire en fait. Et aujourd'hui en fait, l'un des défis de l'IA, c'est qu'on parle des grands modèles de langage, de très grands modèles de langage, où il faut des centaines et des centaines de, peut-être des millions de dollars, des dizaines et dizaines de millions de dollars pour les entraîner. Et tout le défi, c'est justement d'arriver à ce genre de truc où on peut entraîner juste une IA pour une application spécifique qui fait que le prix va baisser rapidement.
Ouais. Je me demande si les publications françaises sont en train de tester ce genre de choses. Si on pourrait avoir Le Monde bot ou un Figaro bot qui va être entraîné, parce qu'il y a de la matière quand même, de la publication de décennies en arrière. Et est-ce qu'une IA pourrait être entraînée sur... Est-ce qu'ils sont en train de travailler là-dessus? Il y a des choses intéressantes hein, sur les problèmes, les erreurs que ça peut provoquer. Par exemple, le journaliste de The Verge qui testait ça disait « Quand je pose des questions sur les iPod Nano, par exemple, il va me répondre que c'est un appareil qui est super performant, machin, mais... parce qu'il tire la réponse d'un article qui parlait de l'iPod Nano à l'époque, alors qu'il n'est plus en vente depuis un moment. Et ça, il n'arrive pas encore, cette IA n'arrive pas bien à l'appréhender. Donc, pour les trucs factuels, c'est toujours pas ça. Comme vous le savez, moi, je dis souvent, les IA génératives, pour les trucs factuels, c'est pas fiable. Pour les trucs créatifs, c'est marrant, c'est cool, ça marche. Mais pour les trucs factuels... Et donc là, ce genre de choses, c'est plutôt des trucs factuels qu'on va voir, je pense. Donc, je suis un peu...
Ouais. Et pour répondre à ta question, je crois que Frandroid fait un test, j'ai vu passer ça aussi, ils ont entraîné une IA, alors je ne sais pas si c'est disponible, mais en tout cas, ils testent. Et pour les grands médias comme Le Monde ou Le Figaro, je pense que... Alors, Le Monde, je connais bien ce que j'y ai travaillé, je pense qu'il y a des tests, ils regardent ce qui se passe. Mais il y a toujours le côté, voilà, le côté factuel, le côté aussi relation avec les journalistes. On sait qu'il y a certains journalistes qui ont un peu peur des IA, et que dans une rédaction, dans un grand média comme ça, les journalistes, c'est assez important, ils ont un poids assez important. Donc il y a ces deux trucs où le fait, voilà, tu vas poser des questions sur, et ça va donner une réponse fausse, et que c'est affiché le monde, c'est pas bien en fait pour ton image de marque finalement. Donc je pense qu'il y a du temps, ça va prendre un peu de temps avant que ça arrive. Mais je crois qu'AP aux États-Unis, donc la société de presse, ils ont un partenariat avec OpenAI, justement. Donc, voilà, donc ça teste, en tout cas, c'est sûr que ça teste. On sait que déjà, il y a pas mal d'articles qui sont déjà écrits par de l'IA, des articles très factuels, par exemple, sur les résultats des élections, des choses comme ça. Mmh. Sur les résultats de sport, aux États-Unis, ils font beaucoup. Donc, ça va venir, on le sait.
Oui, là où c'est différent, c'est que là, c'est des trucs très focalisés, très spécialisés. Et d'ailleurs, à propos de la relation avec les journalistes, les dirigeants du groupe de presse disaient bien « Ah, mais évidemment, ça ne remplace pas les journalistes. Au contraire, cette IA ne peut pas exister sans le travail des journalistes, puisqu'elle est entraînée sur le travail des journalistes. » Et de fait, l'idée, c'est presque de s'en servir comme un moteur de recherche pour ressortir des informations et pas de recréer des articles. Donc, dans ce cas-là, je pense que cet argument tient.
Mais le seul truc là où moi, je me pose la question, c'est quoi le modèle économique, en fait ? Parce que si tu peux accéder à l'IA pour aller dire, mais voilà, dis-moi, qu'est-ce que tu penses du dernier iPhone ? Très bien, mais ça ne génère pas une page vue, finalement. Et on sait que c'est MacWare, par exemple, c'est sur la page vue, ça marche. Donc là, il y a
C'est-à-dire que tu vas sur... Si l'outil est super pratique et te permet de naviguer dans les archives de manière très simple, bah, tu vas aller là, peut-être, parce que tu fais confiance à la ligne éditoriale de ce groupe de presse plutôt que d'aller chercher quelque chose sur Google. Je dis ça au hasard, tu vois, mais tu vas aller sur un truc et tu dis...
Tu cherches, quand tu veux lire le test du dernier iPhone, par exemple, tu vas sur la page, tu vas voir des pubs, tu vas peut-être regarder une vidéo où sur YouTube, il y a de la pub, tu vois, il y a pas mal d'interactions sur une IA.
Attends, pour l'instant, excuse-moi, je crois qu'il y a une interruption, malheureusement, pas d'une IA, mais d'une... Qu'est-ce qui se passe ? Ah, on m'espionne simplement. Tu veux venir dire bonjour ? Ma fille est malade, c'est pour ça que je suis un petit peu crevé. Il faut venir dire bonjour ou refermer la porte, parce que...
Hey,
Esclin,
come.
Bon, désolé, hein. Ma fille est malade, donc elle est là. Tu dis bonjour.
Bonjour. Elle est mignonne.
Mange bien. Ciao, ciao. Elle a sa belle robe et tout. Bon. Désolé, elle vient de se réveiller. Elle commence à parler français, donc c'est pour ça que son bonjour n'était pas parfait. Je ne sais plus ce qu'on disait du coup. Pardon les auditeurs et les auditrices,
j'avais fini en tout cas mon...
D'accord. Eh bien, on va passer à autre chose. Donc, je crois qu'on avait tout dit sur cette histoire d'IA. Et oui, quand la petite est malade, ça peut arriver ce genre de choses. Bref, les sujets seront dans les newsletters. Là, le deuxième sujet, c'est un défi que je te pose, Jérôme. On va essayer de dire du bien de X, de Twitter. Ça commence à passer. Je commence à dire X plus que Twitter. Ça va prendre quelques mois, je pense. Mais...
Genre, moi, je dis encore Facebook et je ne dis pas Meta. Tu vois, je dis encore Google et je ne dis pas...
Non, mais Facebook, c'est Facebook. Bien, hein. Meta, c'est la bonne mère. Mais
même quand je dis Facebook a gagné tant d'argent, je ne dis pas Meta a gagné tant d'argent.
Oui, je comprends. On me dit, Patrick, tu dois apprendre à ta fille à faire le pitch Patreon. C'est peut-être une bonne idée.
C'est la prochaine étape, en fait.
C'est ça. Bon, alors, dire du bien. Hein. Pardon ?
Ça marcherait peut-être bien. Hein.
Ah, c'est possible. Donc, dire du bien de X, en fait, c'est vraiment, j'ai vu passer quelques petites news qui me laissent penser qu'il y a quelque chose qui pourrait, sur le long terme, correspondre à ce que disait Elon Musk au début, à son rachat de X et avant, et ce qu'il dit depuis aussi, mais qui est perdu un petit peu dans ses pitreries, c'est la manière dont il pourrait en fait se servir de X pour faire une super app, ou au moins, peut-être qu'une super app, comme on en voit en Asie, c'est un petit peu ambitieux, et la réussite est loin d'être certaine. Mais par contre, ajouter des fonctionnalités qui tirent véritablement parti de la résilience du réseau social, qui est quand même très suivi, et qui pourrait, du coup, en faire plus que ce que ça n'a été pendant 10 ans. La grande question, évidemment, c'est est-ce que sa force ne venait pas de sa simplicité? Est-ce que rajouter des fonctionnalités alourdirait le truc et en retirerait l'usage, en retirerait de la tractabilité? Eh bien, en tout cas, on va peut-être le savoir bientôt, puisqu'il y a différentes choses qui ont été annoncées. La première, c'est X Hiring, X embauche, on pourrait dire ça comme ça. C'est un équivalent un petit peu de LinkedIn sur Twitter. C'est-à-dire qu'il y a une fonctionnalité qui permet à des entreprises, des organisations, de publier des annonces, des offres d'emploi et de les diffuser facilement sur Twitter et d'être consultable facilement sur Twitter. Une autre fonctionnalité qui est en train d'être ajoutée, c'est plutôt un ensemble de fonctionnalités dédiées aux créateurs de contenu qui viseraient à faire en sorte que Twitter devienne une destination plutôt qu'un lieu de passage qui renvoie vers d'autres destinations comme YouTube, Twitch, etc. D'ailleurs, moi-même, j'ai arrêté de mettre des liens vers d'autres sites dans mes tweets parce qu'on sait que c'est moins favorisé par l'algorithme, et donc pour avoir un petit peu plus de portée, eh ben tu enlèves le lien, tu décris hein, l'endroit où il faut aller pour voir le contenu que tu veux mettre, mais tu peux enlever le lien, ce qui favorise Twitter, puisque ça ne fait pas sortir les gens du site, mais il y a plein de fonctionnalités, la longueur des vidéos a été accrue, on peut faire poster des vidéos de 2 heures, quand on est abonné premium bien sûr, il y a un studio média qui permet de télécharger les vidéos, d'autoriser ou de ne pas autoriser le téléchargement. Il y a un sous-titrage automatique, le lien avec AirPlay pour jouer sur un autre appareil, le fait d'avoir la vidéo in vidéo, le fait de streamer, par exemple, on a désormais, a priori, la possibilité de streamer vers Twitter avec OBS, ce genre de choses. Alors, ça fait peut-être un petit peu fouillis, et ça, c'est très spécifiquement dédié aux créateurs, mais ça, si, disons que là, ils auraient potentiellement de quoi offrir au moins un petit peu une concurrence à Twitch, YouTube, etc., ça ne va pas se faire en 2 jours. Mais c'est des fonctionnalités qui, à mon sens, sont intéressantes pour ce réseau qui est resté malgré tout tellement fidèle à son ADN qu'il a très très peu évolué, il est resté dans sa niche, quoi. La grande question, c'est est-ce qu'il y a de la place pour un Twitter qui sort de sa niche ou pas?
Alors, juste pour dire du bien d'Elon Musk et de X,
on ne peut pas lui enlever... dire du bien d'Elon Musk, hein, j'ai dit dire du bien de X.
Non, mais on ne peut pas lui enlever le fait que depuis qu'il est arrivé, ça bouge beaucoup finalement chez Twitter. En termes de fonctionnalités, il y a beaucoup de choses qui ont été lancées ça fait un peu moins d'un an, en 10 mois, par rapport à une entreprise qui, c'est vrai, on avait un peu l'impression qu'elle avançait pas très vite, que c'était un gros paquebot qui avançait pas très vite et qui changeait pas très vite. Pour certaines raisons aussi, il faut aller trop vite des fois, sachant le poids de Twitter dans les élections par exemple, ou dans l'opinion publique, ça peut être aussi problématique. Après, sur le...
Pardon, à propos de X Hiring, on dit X Firing a déjà été implémenté il y a quelques mois dans la chatroom. Bravo.
C'était Twitter Firing à l'époque, mais oui. C'est ça. Mais après, ouais, alors sur la vision globale de la super app, moi, j'y crois pas du tout, en fait. J'y crois pas du tout pour une raison simple, c'est qu'il prend WeChat en exemple, sauf que WeChat, il est parti... quand WeChat est arrivé, il n'y avait rien, en fait. C'est WeChat qui a tout créé, et donc les gens sont arrivés sur WeChat, et tout s'est créé autour de WeChat. Aujourd'hui, il dit, je vais faire un Uber sur Twitter. Qui va l'utiliser Twitter pour appeler un Uber?
Les gens qui utilisent déjà Twitter. Tu vois, il y a quand même 300 millions d'utilisateurs de Twitter.
D'accord, mais est-ce que tu vas... Je ne sais pas, Uber a perdu. Uber, ils viennent de gagner de l'argent pour la première fois de leur histoire, là, il y a le trimestre dernier, après 15 ans. Je veux dire, c'est des investissements qu'ils ne veulent pas faire, en fait. Alors lui, je ne sais pas comment il va faire exactement, mais je pense qu'il a une idée, une vision, et il pense que tout est facile, en fait. Et après, il y a par exemple, il dit, on va faire des banques, on va faire des services financiers, vous allez pouvoir payer directement avec Twitter. Sauf que pour faire ça, il faut avoir des licences bancaires. Il ne les a pas, les licences bancaires. Qui va les donner une licence bancaire à Elon Musk aujourd'hui? Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a la grande vision globale, et puis il y a la réalité, le mettre les mains dans le cambouis, et il va arriver des choses. La régulation, ça existe, et je crois que pour Elon Musk, forcément, c'est pas toujours l'idée. Voilà.
Je dirais que d'une part, il peut utiliser des services financiers tiers pour, dans un premier temps au moins, pour amener le paiement sur Twitter. Il pourrait, dans un deuxième temps, faire tout transiter par Twitter lui-même. Mais il y a un truc qui me... Là encore, on va un tout petit peu invoquer... C'est l'avocat du diable. Mais quand même, je le pense un petit peu... Il y a beaucoup de gens qui réussissent des choses, qui regardent en arrière et qui disent « La raison pour laquelle j'y suis arrivé, c'est que personne ne m'avait dit que c'était impossible. » Ou que je ne me rendais pas compte que c'était impossible. Et il est un petit peu dans, dans ce mood, Elon Musk, dans cette philosophie, quoi. Il y va, il fait fi de toutes les règles et de toute la bienséance, au-delà de l'esprit trollesque qu'il peut avoir. Et il bouscule les choses et il peut, par exemple, ce qu'il a implémenté là sur Twitter, c'est parce qu'il s'est dit « je me fous de ce qu'il y avait avant, moi voilà vers quoi je veux aller ». Et disons qu'il ne va peut-être pas réussir à tout faire, et Dieu sait qu'il ne réussit pas à faire tout ce qu'il dit qu'il va faire, ou il y a beaucoup d'esbroufs, mais il y a quand même des trucs qui réussissent. Et là, bon, au-delà des grands rêves qu'il fait pour Twitter et pour X et pour la super app, il y a une certaine volonté de faire bouger les choses et il y a des choses qui commencent à arriver, quoi. Twitter, les vidéos longues, c'est déjà disponible. Le streaming, c'est disponible. X-Hiring, c'est en test bêta. Le premium, ça a été très chaotique, mais finalement, c'est installé. Je ne dis pas est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va rapporter de l'argent, ça, j'en sais rien. Mais tu vois, il y a des choses qui arrivent, quoi.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Il a fait bouger les choses. Et c'est vrai je pense qu'en termes de fonctionnalité aujourd'hui, on peut être très critique sur Elon Musk et sur la direction qui est prise sur X, notamment en termes de modération ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en termes de fonctionnalité, on ne peut pas lui enlever le fait qu'il y a plein de fonctionnalités qui ont été lancées en quelques mois, même en ayant viré 70 ou 80% des effectifs. Donc ça on peut pas lui enlever, moi je suis tout à fait d'accord. Après, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que parfois on a l'impression, on sait pas trop qu'est-ce que Twitter. En fait, Twitter c'était très simple, c'était du texte, je sais l'actu. Aujourd'hui, si on va faire du live streaming, si on va mettre des vidéos, il y a même des gens qui mettent des films maintenant sur Twitter. Apple TV a mis un épisode de je sais plus quelle série sur Twitter. Il y a une émission avec un présentateur d'extrême droite aux États-Unis, donc sur Tucker Carlson. Il y a plein de choses, en fait, finalement, ça devient assez fourre-tout. Et est-ce que la proposition de valeur, elle ne va pas être diluée dans tout ça, en fait ?
Je crois qu'au final, si on prend un peu de recul sur toutes les pérégrinations et les trolls d'Elon Musk, au final, les deux grandes questions qu'il y a, les deux grandes choses à observer, c'est, bon, d'une part, l'orientation politique de la plateforme. D'ailleurs, Donald Trump est revenu sur la plateforme juste pour mettre une photo de lui, son mugshot de son arrestation. Et c'est un petit peu particulier.
Pour demander de l'argent,
c'est ça. Ça commence à paniquer un petit peu du côté de Trump, j'ai l'impression. D'ailleurs, les community notes, c'est marrant, il y a eu il y a une sorte de petite polémique en ce moment parce que les notes de communauté sur Twitter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la possibilité pour la communauté d'ajouter une note à un tweet pour lui donner du contexte. Sauf que ces notes de communauté, elles ne sont pas modérées, il n'y a pas de décision éditoriale ni rien, c'est juste des membres de la communauté qui les mettent. Et donc au début, les gens trouvaient ça utile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient dessus, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'elles sont utilisées exactement comme des tweets c'est la bataille dans les notes de communauté comme c'est la bataille dans les tweets. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont pensé que tout à coup, ça allait devenir Wikipédia, les notes de la communauté, alors que...
C'est pour ça.
C'est vraiment, moi, ce que je disais en réponse à quelqu'un qui en parlait, c'est que les notes de communauté, c'est pas Wikipédia, c'est Twitter au carré, c'est Twitter dans Twitter. Ça reproduit les défauts de Twitter, mais associé à un tweet plutôt qu'en réponse. Donc, je comprends pas que les gens soient surpris, quoi. Mais bref, peu importe. Ce que je voulais dire, c'est que les deux choses qu'il va falloir regarder, c'est... l'orientation politique qu'il donne à la plateforme, et ça inclut la modération, et les deux sont liés. Et puis, est-ce que la dilution de la spécificité de Twitter va lui être bénéfique, ou maléfique, ou néfaste ? Et ça, bien malin celui qui saura le dire. Prédiction, Jérôme ?
Ça dépend, en fait. Ça dépend si... moi, je pense que le Twitter d'il y a 2-3 ans, il va être amené à disparaître, finalement. Et ça sera autre chose qui va être créé. Est-ce que ça sera mieux ou pas? Moi, en tant que journaliste, je suis de moins en moins actif sur Twitter. Je tweete quasiment plus. Et ça me sert de moins en moins dans mon métier. Parce que moi, j'ai une utilisation très spécifique de Twitter. Mais est-ce que le grand public... Je ne suis pas le grand public, en fait. Et donc, est-ce que tout ce que fait Musk aujourd'hui, ça va avoir un attrait pour le grand public plus grand? C'est possible aussi. Donc, franchement, je ne peux pas dire. Je suis ni positif ni négatif. J'attends de voir. Je suis observateur de ce que fait Elon Musk, plus qu'autre chose, en fait.
Ça me fait presque penser à Instagram, qui, il y a bien longtemps, était un réseau social de photos. Vous vous en souvenez peut-être, et dont les photographes et les amateurs de belles images se lamentent qu'il ait changé à ce point. Mais au niveau de Meta, pas Facebook, ils sont très contents du nouveau Instagram, enfin, la manière dont il a évolué, parce que ça rapporte plus de sous. Peut-être que Twitter est mort à jamais et que le nouveau Twitter sera différent, mais plus populaire. 300 millions, c'est... c'est un petit réseau social par rapport au gros, hein, mais peut-être que ça.
Mais ça reste quand même intéressant. 300 millions, c'est quand même. On est au niveau de Snapchat, 300 millions, donc c'est pas non plus.
Non.
Dans le top 10.
C'est pas rien du tout. Au contraire, et d'ailleurs, c'est sur ça qu'il table. En fait, on a l'impression qu'il a racheté non pas le réseau lui-même pour ce qu'il était, mais pour sa place dans l'inconscient collectif des gens. Et on voit bien que c'est difficile pour Blue Sky ou Mastodon de remplacer Twitter ou de devenir une véritable alternative. Encore qu'on verra dans quelques années, mais c'est difficile, pas parce que les fonctionnalités sont moins bonnes ou meilleures ou que Elon Musk fait ceci ou cela, mais parce que c'est le stickiness de là où on est depuis longtemps et de là où on a son audience. Et c'est pas facile de changer de réseau, quoi. Ça, c'est un truc qu'on fait.
Et juste pour rebondir ça, et tu as tout à fait raison, c'est que, en fait, Twitter, c'est une petite boîte. En termes de capitalisation boursière, en termes de chiffre d'affaires, c'est assez petit, finalement. Et on en parle tellement parce que c'est le poids qui est prépondérant dans la vie sociale, dans la vie citoyenne. Et c'est, moi, ça me fait penser, si on se reprojette dans l'autre monde, enfin, dans le monde ancien, c'est un peu comme Lagardère, finalement. Europain, par exemple. Aujourd'hui, Europain, c'est tout petit, ça représente rien, c'est quelques centaines de salariés. Mais on en parle tellement d'Européens ou de Lagardère parce que ça a un poids, ça a une prépondérance au niveau... Voilà. Et Twitter, c'est un peu ça, finalement. C'est plus important au niveau social qu'au niveau financier et économique, en fait.
On verra ce que donne Twitter dans les mois et les années à venir. Entre parenthèses, j'ai reçu quelques reviews iTunes un petit peu... Comment les qualifier ? Bon, il y a des fans d'Elon Musk qui sont venus et qui n'étaient pas contents. Je suppute que ce sont des fans d'Elon Musk parce qu'ils m'ont reproché certaines choses qui sont bien en ligne avec ça. Écoutez, je n'y prête pas énormément attention, mais si vous voulez contrebalancer un petit peu, n'hésitez pas à aller lâcher votre petite review iTunes, ça serait sympathique. Le dernier sujet dont je voulais parler, c'est les tendances du marché mobile pour plusieurs raisons. Alors d'abord, un chiffre assez impressionnant, c'est la quantité d'iPhone Pro Max qui a été vendu, en tout cas shipped, donc comme on dit, envoyé en magasin.
Livré.
Livré, merci, voilà, c'est un terme compliqué en français, livré. Donc, qui ont été livrés par Apple, au premier semestre 2023, il y en avait 26,5 millions. C'est l'appareil qui s'est le plus vendu de tout le semestre, c'est-à-dire plus que les autres appareils, tous les autres téléphones. Et les quatre modèles d'iPhone de cette année ont les quatre premières places des ventes de téléphones individuellement sur la première moitié de l'année. L'autre chose que je remarque,
je peux rebondir juste.
Vas-y, si, bien sûr.
En fait, c'est assez normal que, c'est souvent le cas que les iPhones sont le plus vendus. Ce qui est nouveau, par contre, c'est que c'est l'iPhone le plus cher qui est le plus vendu, en fait.
C'est exactement ça.
On en parlera tout à l'heure. C'est que c'est une tendance du marché. Le marché baisse en termes de volume, mais par contre, le marché de très haut de gamme, lui, baisse pas. Et donc, il baisse moins, en tout cas. Donc, c'est assez intéressant à voir, en fait. Mais bon.
Et c'est cette tendance que l'on sent se confirmer, ou en tout cas que Apple pressent, avec des prévisions pour l'iPhone 15, qui va sortir, qui va être annoncé là dans deux semaines, qui serait que le modèle le plus vendu, qui compterait pour 35 à 40% des nouveaux modèles, ça serait là aussi l'iPhone 15 Pro Max. C'est quand même des téléphones à 1500 euros. Hein. C'est le gros modèle. Alors, en l'occurrence, ça serait parce qu'il aurait cette lentille périscopique qui permet d'avoir plus de zoom, qui monte à 5 ou 6 au lieu de 3. Donc, il compte là-dessus. Mais d'une manière générale, le plus gros serait le plus vendu, et pas que d'un peu. Et ça s'inscrit donc dans cette tendance qui est en ligne avec... Bon, ils sont plus chers, mais d'un autre côté, les gens attendent plus longtemps pour changer de téléphone et donc, ils ont peut-être un petit peu plus d'argent à mettre dans leur achat. Et au lieu d'en acheter un moins cher tous les 2 ans, je dis ça au hasard, ils en achètent peut-être un plus cher tous les 3 ou 4 ans. Et pour le coup, c'est pas que tout le monde se met à acheter les iPhones plus chers tous les ans, mais peut-être qu'ils décalent un petit peu et donc ils ont un petit peu plus de budget pour leur achat. C'est une théorie crédible.
Je pense, moi aussi, c'est aussi une tendance. Je le vois, ça n'a aucun rapport, mais tu vois, avec la Xbox, personne n'achète la S parce qu'elle est moins chère, elle est 200 euros moins chère, je crois. Tout le monde va acheter la X parce que finalement, tu veux
pas acheter moins cher. Je ne suis pas sûr que ça soit aussi clair. On n'a pas les chiffres, mais...
Non, mais on n'a pas les chiffres. Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu dis, bon, je vais dépenser 1200 euros pour un téléphone, ben pourquoi pas dépenser 1300 pour avoir le top du top, finalement. Et il y a le discours marketing d'Apple qui a été très bon sur ça. C'est que voilà, tu as l'impression que les autres iPhones, c'est un peu des iPhones au rabais, finalement. Et que si tu veux la vraie expérience, il faut mettre les 1500 euros, il faut acheter l'iPhone Pro Max. Et ça, ils sont très bons. Et donc, je pense qu'il y a aussi cette tendance-là de dire, voilà, quitte à dépenser de l'argent, autant aller se faire plaisir jusqu'au bout. Et aussi, sur les iPhones, enfin les téléphones très chers, on voit aussi que l'un des segments qui augmente beaucoup, c'est les smartphones pliables, qui sont extrêmement chers aussi. Hein. On a plus de 1500 euros, enfin, je crois 1800 euros pour les Samsung, enfin, des choses comme ça. Et là aussi, voilà, c'est pareil, c'est la nouveauté. Et on dit qu'il n'y a pas de nouveauté sur les téléphones depuis des années, donc il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent pour des iPhones, pour des téléphones très chers. Quoi. Et de l'autre côté, tu as tout le bas de gamme qui se casse la gueule, tout le moyen de gamme qui peine également. Et donc voilà, il y a une tendance du marché qui va vers le haut de gamme.
Et justement, c'est un petit peu lié à ça, cette conclusion que je voulais amener à ce sujet, qui est tirée en fait d'un article qui est inspiré par un article de notre ami Kassim sur Frandroid, que tu évoquais tout à l'heure, qui est un petit peu... alors, j'ai titré sur Twitter, comment je l'ai dit, la fin du marché des smartphones ou le marché des smartphones est mort ou un truc du genre. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à un stade de l'évolution de cette industrie qui est tellement mature qu'il y a une sorte de consolidation avec des gagnants et des perdants. Et clairement, les deux gros gagnants, c'est Apple et Samsung. Samsung qui a réussi à établir sa place dominante sur le marché Android. Sur le marché Android, on va dire, des gens qui veulent un téléphone spécifique. C'est quand on veut un bon Android, on va chez Samsung. Non, chez le grand public, hein, il y en a peut-être d'autres pour les connaisseurs, mais d'une manière générale, bah, le bon Android, c'est Samsung. Et tous les autres, sont en train de petit à petit abandonner. Il y a de nombreux constructeurs qui ont arrêté de construire des téléphones. On a, alors Huawei, c'est un peu particulier parce qu'il y a les restrictions américaines qui font qu'il est difficile pour eux d'opérer. Oppo et OnePlus sont plus vraiment en France. On en avait parlé il y a quelques mois. Asus est en train d'abandonner ses Zenfone, même si les smartphones gamers ROG continuent, mais les Zenfone disparaissent, etc., etc. Alors, il y a encore quelques constructeurs qui restent, mais on est clairement en train de se diriger vers une autre phase de ce marché. Et dans cette autre phase, bah, les deux vrais joueurs, players, c'est Apple et Samsung, et les autres... Bah, et donc, il y a moins de concurrence, quoi. C'est inévitable.
Je suis pas certain. Enfin, si tu regardes ça existe toujours. Si tu reprends des années en arrière, il y avait HTC, ça n'existe plus. Tu avais Sony, ils font quasiment plus de smartphones. BlackBerry, ça n'existe plus. Donc, c'est assez finalement logique que ça, et LG aussi qui fait plus de smartphones, bah, qu'il y ait des entreprises qui, des marques qui apparaissent, des marques qui disparaissent, c'est assez finalement logique.
Il y en a plus qui disparaissent que certaines qui apparaissent. Ouais. Hein. Allez, tu, après, genre ouais. Nothing et quelques. Deux ou trois, mais là, tu viens de faire une liste d'énormes constructeurs longs comme le bras de ceux qui ont disparu. Effectivement, oui. Il y a 10 ans, il y avait peut-être, je ne sais pas, 20 constructeurs sérieux. Aujourd'hui,
mais il y a toutes les marques chinoises. En fait, eux, ils ont disparu parce que les marques chinoises sont arrivées aussi en force. C'est vrai que le marché, on le sait, il va se... Et tu l'as très bien dit, il y a l'iPhone d'un côté et il y a Samsung de l'autre pour les Android, qui est la marque un peu référence. Quand on ne connaît pas trop, on va acheter un Samsung. Ou... dans une de moindre mesure aujourd'hui, des pixels de Google qui commencent à se faire un peu leur trou. Après, il y avait tout le côté, toutes les marques chinoises notamment qui sont arrivées sur le côté, on casse les prix. Et là, en fait, elles, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'elles sont pénalisées par la baisse des ventes. Et finalement, le réflexe de dire, voilà, quitte à acheter un smartphone, autant chercher un smartphone qu'on connaît parce que, voilà... Donc après, je ne sais pas, moi je pense que c'est plus triste le côté qu'il n'y a plus d'innovation finalement sur un smartphone. Et on le voit, tu as parlé de Nothing, leur seule innovation, c'est qu'ils ont leur truc qui clignote derrière. Non, mais ça, et les gens disent, oh, c'est super génial, j'achète un Nothing parce que ça clignote derrière. Et c'est juste un truc assez basique finalement, qui est intéressant, qui est marrant, mais finalement, ça n'apporte rien, pas grand-chose. Mais rien que ça, ça suffit à se faire une marque, une place dans le marché des smartphones. Et moi, c'est plus ça où je pense que le marché des smartphones n'est pas... Achète un smartphone A ou B, finalement, aujourd'hui, il n'y a plus trop de différence, en fait. Tout le monde se copie à peu près tout le temps. Les smartphones se ressemblent quasiment tous. Le système d'exploitation, aujourd'hui, il est assez standardisé autour d'Android. Je ne parle pas des iPhones, mais voilà. Donc, ouais. C'est plus ça, je pense, que le fait que des entreprises marquent, des marques vivent, des marques disparaissent, des marques reviennent. Enfin, voilà, c'est assez logique.
Je pense que un moyen intéressant de déterminer la chose, ça serait de savoir combien il y avait de marques qui font genre tant de ventes il y a 10 ans et combien il y en a aujourd'hui. Ça serait intéressant à noter. Je suis à peu près certain qu'il y en a moins aujourd'hui. Mais bon, à voir. Après, le marché...
Les marchés occidentaux, en fait. Parce que nous, si on prend le marché occidentaux, oui. Mais si tu vas en Asie, Samsung en Asie, ça n'existe pas, en fait. En Asie du Sud-Est, il n'y a pas de Samsung quasiment parce qu'ils sont trop chers par rapport à Oppo, machin. Donc nous, on a sur les marchés occidentaux, certainement, et notamment aux États-Unis, ou alors là aux États-Unis, c'est Apple et Samsung et quasiment rien d'autre. En Europe, c'est un peu différent, c'est un peu moins marqué, mais dans les autres pays, ce n'est pas forcément le cas non plus, quoi. Donc c'est pour ça, c'est assez difficile en fait, parce qu'il y a des tendances de marché, des dynamiques de marché qui sont différentes en fait.
Je vois que l'article a été mis à jour après publication. Visiblement, Asus n'arrête pas sa gamme Zenfone. Donc, on a la réponse. C'est toi qui avais raison depuis le début. En fait, les Zenfone continuent à exister. Donc, tout va bien. C'est bon, vous avez un choix incroyable. L'industrie n'est pas en train d'arriver à maturité. Bon, ce qui est sûr, par contre...
Elle est à maturité depuis longtemps, l'industrie, sûr.
Ce qui est sûr, c'est que les gens achètent des téléphones moins souvent et donc ont sans doute plus de budget à mettre dans leur achat, quoi. Et voilà pour les trois sujets que je voulais évoquer aujourd'hui. Avant de continuer, je voudrais vous rappeler que vous pouvez soutenir l'émission sur Patreon. Qu'est-ce que c'est que Patreon ? C'est un site de soutien participatif qui vous permet de vous abonner aux créateurs que vous appréciez et aux créations que vous appréciez, en l'occurrence sur le Rendez-vous Tech. Vous pouvez choisir de donner, par exemple, 1 euro ou 2 euros ou 3 euros, ce que vous voulez, pour les épisodes. Et à la fin du mois, vous serez débité. Je pense que tout le monde connaît Patreon aujourd'hui, mais je réexplique quand même. Quand j'ai commencé, c'était vraiment nouveau, hein, par rapport à des trucs comme Kickstarter. Mais la différence, en fait, avec un truc comme Kickstarter, c'est que un Kickstarter, c'est par projet. Vous allez soutenir un projet pour qu'il puisse se faire. Et moi, je n'ai jamais été vers Kickstarter parce que ça ne correspond pas à ce que je fais. Ce dont j'ai besoin, l'avantage que me procure Patreon, c'est de la stabilité. Ce que vous donnez à un créateur de contenu, ce que vous me permettez de faire en vous abonnant sur Patreon, c'est d'avoir un revenu qui est, qui est prédictible. Et parce que la grande angoisse de tous les créateurs de contenu, c'est comment est-ce que ça va évoluer ? Est-ce que je vais pouvoir tenir, pas à un mois ou deux mois, mais à 6 mois, à 1 an, à 2 ans ? est-ce que ça va pouvoir tenir ? Et ce que j'ai constaté sur Patreon, c'est que les revenus sont généralement assez fiables, assez stables, parce que les gens s'engagent, pas sur un mois, mais sur quelques mois au minimum, quelques années parfois. Alors, il y a toujours des gens qui, pour différentes raisons, finissent par s'arrêter. C'est normal, c'est attendu. Mais il y a aussi des gens qui prennent le relais. Et c'est vous qui pouvez être ces personnes qui prennent le relais. C'est les nouveaux auditeurs ou les auditeurs qui sont à une étape de leur vie où ils peuvent se le permettre ou ce genre de choses. Et c'est donc exactement parce que les auditeurs qui sont déjà patriotes n'entendent pas cette petite partie. Ils ont un flux privé sans pub. Donc, ils n'entendent pas cette partie promo Patreon. Donc, si vous entendez cette petite promo, c'est vous qui pouvez devenir patriote et continuer à me permettre et me permettre de continuer à avoir l'esprit tranquille. Ce n'est pas prévu que ma fille vienne vous dire bonjour, mais je ne suis plus dans la situation dans laquelle j'étais il y a quelques années, où je pouvais me contenter de manger quelques pâtes et tout allait bien. Et j'étais tranquille dans mon mini-studio. Là, oui, j'ai des enfants, j'ai une famille, comme beaucoup d'entre nous. Et donc, cet aspect prédictibilité, prévoyance, est important aussi. Et Patreon est la meilleure solution pour ça. Donc, merci à tous ceux et à toutes celles qui soutiennent déjà. Et si vous pensez que ça pourrait être une option qui pourrait vous intéresser, allez sur patreon.com/rdvtech pour voir de quoi il en retourne. Vous arrivez chez vous, les clés vont dans le bol, ça fait cling, et là vous dites, ah oui, Patreon, prédictibilité, sa fille qui est adorable, tout ça, Patrick, il faut y penser. patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous et à vous toutes. Le reste de l'actu. Le reste de l'actu. Alors, je ne sais pas si tu es au courant de ce qui se passe au Canada, Jérôme. On en a parlé les semaines précédentes.
Il se passe beaucoup de choses au Canada.
Oui, il se passe beaucoup de choses au Canada, j'avoue. Mais avec les sites de news, les sites d'information, il y a une loi qui est passée, qui impose aux réseaux sociaux, enfin essentiellement à Google et Meta, de rémunérer les sites de presse dont ils utilisent du contenu étant un lien avec un titre qui est affiché sur leur réseau ou sur les résultats de recherche. Suite à ça, Google et Meta ont dit, comme ils l'ont dit par le passé ailleurs, si c'est comme ça, on ne va plus afficher les sites, les liens des sites de liens, enfin des sites de presse, tout simplement. Et il y a beaucoup d'experts qui s'inquiètent de cette décision parce que ce qu'ils disent, et moi j'avoue que je ne l'avais pas vu venir comme ça, ce qu'ils disent, c'est que tous les sites de désinformation et les sites de désinformation qui carburent à l'IA et qui publient beaucoup, du coup, ils ont un boulevard. Et comme les sites légitimes ne sont plus affichés sur Facebook et sur Google, c'est encore pire que ce qu'on disait il y a quelques semaines où c'est une situation lose. Oh là là, il y a Ubik qui s'est abonné à Patreon en direct suite à mon plaidoyer. Bravo Ubik, merci beaucoup. On a eu l'alerte en direct sur Twitch. Donc, on est encore pire que dans une situation lose au Canada où tout le monde perd. C'est encore pire que ça. C'est qu'en plus de ça, les désinformateurs aidés par l'IA, ils gagnent. Donc, les seuls qui gagnent, c'est la désinformation. C'est un angle intéressant auquel je n'avais pas pensé et qui alerte encore plus dans cette situation compliquée, quoi.
Ça peut donner des arguments pour Facebook et Meta, en fait. Tu parlais de, notamment, le premier pays qui a fait ça, c'est l'Australie, où ils ont dit pareil, ils ont dit on va partir. Finalement, ils ne sont pas partis, ils ont accepté de négocier sous la pression, notamment de l'opinion publique, avec les médias. Alors, je crois que je ne suis pas très au point sur la loi canadienne, mais ce que dit Facebook et ce que dit... je dis Facebook encore, je ne dis pas Meta. Ce que dit Facebook et ce que dit Google, c'est que la loi canadienne va plus loin, en fait, par rapport à la loi australienne, et que on franchit la ligne qu'il ne faut pas franchir. C'est pour ça qu'ils bloquent au Canada et qu'ils ne bloquent pas en Australie, en Europe aussi, notamment en France. Ils doivent payer les droits voisins, ce qu'on appelle chez nous. C'est vrai que ça pose question sur que... Alors, eux, ils vont dire, oui, mais les news, ça représente rien, en fait, sur Facebook. Ça représente absolument rien. C'est des petits points de pourcentage de l'activité. Donc, pourquoi on paierait pour ça, finalement? Mais c'est vrai que tu as le côté des informations où ça peut donner des arguments à Facebook, finalement, en disant, si vous continuez dans ce sens-là, voilà ce qui va se passer, quoi.
C'est un truc à surveiller, effectivement. Est-ce que tu connais Kaby Lame?
C'est un test, dis-moi.
Un test de ta jeunitude, Jérôme.
Non, Kaby Lame, je suis pas assez jeune.
Clairement. Kaby Lame... Khaby Lame, c'est une star de TikTok qui a été, qui est devenue extrêmement connue avec ses vidéos où il montre, en fait, c'était vraiment le bon endroit au bon moment. Il y avait beaucoup de vidéos où on montrait genre comment couper une banane. Je crois que c'est l'une qui a eu le plus de succès. Genre comment super bien couper une banane. Et il y a quelqu'un qui te sort un couteau, qui fait des trucs genre des tours de magie avec le couteau. Genre regardez, là je la coupe et hop, c'est super facile. Et Khaby Lame, il arrive et il prend une banane et il l'ouvre normalement en 2 secondes. Et la vidéo prend 2 secondes là où celle de l'expert... prenait 1 minute et demie pour ouvrir une banane. Et ensuite, il fait un geste iconique qui est, il montre avec les mains, genre les deux mains, sans dire un mot, il montre avec les deux mains, genre...
Le connais, c'est l'italien.
Voilà, l'italien. Le
ah, mais je ne connaissais pas son prénom. Je connais pas, non, mais je le connais, oui.
Ouais. Eh ben,
je ne suis pas si vieux que ça.
Ah, d'accord, très bien, tu sauves les meubles. Tu sauves les meubles. Donc, tu connais Khaby Lame. Et je prononce Lame, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Dans tous les cas, il va avoir sa skin, son modèle dans Fortnite. Et je trouve que c'est... Alors, ce n'est pas la première personne à avoir son identité reproduite dans des jeux vidéo, mais je trouve que ça commence à être un petit peu... Surtout Fortnite, qui est le jeu vidéo le plus populaire du monde, hein. C'est vraiment, la réflexion que ça m'a inspiré, c'est genre, si t'es pas dans Fortnite à 25 ans, t'as raté ta vie, quoi. C'est vraiment le succès des influenceurs aujourd'hui, c'est d'avoir leur identité reproduite dans un jeu. Et Fortnite, il faut savoir qu'il y a des skins, il y a des skins, bon, on va dire ça comme ça, vous savez de quoi je parle, vous pouvez habiller votre personnage avec l'aspect de quelqu'un d'autre. Il y a des trucs de dessins animés super connus, de jeux vidéo super connus, etc. Je ne sais pas s'il y a d'autres influenceurs dans Fortnite spécifiquement, mais je trouve ça assez extraordinaire que ça passe, que la vraie célébrité, la vraie réussite, c'est pas la Rolex, c'est d'être dans Fortnite aujourd'hui. Tu vois, là, tu dis, quoi ? Khaby Lame a réussi à être dans Fortnite, c'est fou, c'est incroyable. Trouvez ça rigolo.
Un jour, on dira, si t'es pas dans Horizon Worlds, t'as raté ta vie.
Dans quoi ?
Horizon Worlds, c'est le truc de
Horizon Facebook, Worlds Alors ça, il aimerait bien Zuckerberg, effectivement, mais je crois
pas
que
le temps, pour je le pense. Moment...
Pour le moment, c'est plutôt Fortnite qui gagne. On est dans la chatroom. J'ai hâte du skin Kwakubé. Effectivement. Très belle vidéo de Linguisticae, d'ailleurs, sur le Kwakubé et son importance. Et il fait une analyse excellente. Cherchez sur YouTube Linguisticae. J'ai trouvé son analyse très intéressante. En gros, ce qu'il dit, c'est... Bah oui, c'est un truc qui fait partie de l'évolution de la langue, qui est associé à une génération, qui est tout à fait normal. Il y en a eu des millions et il y en aura des millions. Et voilà, c'est rien d'incroyable. Et les gens qui s'en offusquent ont un petit peu la mémoire courte. Un sujet un petit peu plus sérieux. Il y a eu une série d'arrestations suite aux émeutes des derniers mois. Des émeutes qui ont fait suite à la mort de Naël, des arrestations pour des vidéos qui incitaient à la violence sur Internet, notamment sur TikTok. Il y a eu 32 arrestations, il y a eu des peines de prison, assignations à résidence, voilà, ce genre de choses. Ce qu'on en retient, comme le dit l'article de Numérama, qui voit très juste, je trouve, c'est... Qu'on rappelle encore une fois que, et c'est en lien peut-être avec le DSA dont on parlait la semaine dernière, l'anonymat, ça n'existe pas vraiment sur les réseaux sociaux. Donc, vous qui nous écoutez, je pense que vous êtes suffisamment mûrs et âgés pour le savoir aujourd'hui. Mais si vous parlez à vos enfants, expliquez-leur bien que, aujourd'hui, dans le contexte de l'Internet d'aujourd'hui, vous n'êtes jamais vraiment anonyme. Si vous faites une petite connerie, c'est pas grave. Si vous faites une grosse connerie, on va vous retrouver. Donc, en l'occurrence, on en a un exemple ici. 32 arrestations suite à cette activité sur les réseaux sociaux qui faisait... Alors, c'était les pires. J'imagine que ce sont effectivement des cas importants hein, dans ce cas précis. Mais voilà, c'est notable. Il y a eu des arrestations. Le DSA, j'en parlais, donc on en parlait la semaine dernière. Deux choses que je voudrais dire dans les news un petit peu plus rapides. On en a beaucoup longuement parlé la semaine dernière, donc vous pouvez aller réécouter l'épisode précédent si vous voulez un petit peu plus de détails. Mais deux choses. D'une part, je vais revenir vers toi dans une seconde, Jérôme, pour te demander ce que tu penses de ce DSA et du DMA, qui est DMA, parce que c'est les termes anglais, qui est associé, qui, on le rappelle, vise à réguler un petit peu l'activité des grosses plateformes et des gros acteurs du net. L'une des conséquences que ça a sur à peu près toutes les grosses plateformes, en Europe en tout cas, c'est que ça force, alors on parlera des différentes conséquences, parce qu'il y en a plein, hein, mais l'une des conséquences qui est à retenir, c'est que ça force les plateformes à proposer des flux d'activités sans contenu recommandé spécifiquement pour vous. C'est-à-dire qu'on ne peut plus... Enfin, on doit vous proposer un flux d'activités qui n'est pas calibré pour votre compte spécifiquement. Donc, ça peut prendre la forme d'un contenu qui est chronologique par rapport aux personnes que vous suivez. Ça peut être un contenu qui est, par exemple, les choses les plus populaires, j'imagine, hein, dans votre pays ou dans votre région, ou ce genre de région, je veux dire l'Europe, ou ce genre de choses. Mais ça ne peut plus être calibré. Évidemment, pour les enfants, on n'a plus le droit du tout. Mais même pour les personnes adultes, on doit vous proposer un flux qui n'est pas calibré pour votre compte à vous. C'est l'un des changements importants que je voulais signaler. Et un autre truc que je veux signaler qui est relativement lié, je crois, c'est qu'Apple, tout à coup, s'est mis à soutenir les propositions de loi aux États-Unis qui encouragent ou qui obligent au droit à la réparation. Et je me demande si ce n'est pas lié à ce qui se passe en Europe quand même, parce que c'est ce qui se passe en Europe impacte les constructeurs au niveau mondial aussi. Et comme Apple se dit, bon, bah, on va devoir en faire une bonne partie de toute façon, autant faire les bons élèves et dire, oh, bah, nous, on est pour le droit à la réparation. Hein. Et ils ont attendu qu'on les pousse aux fesses, mais ça m'amuse. Donc, d'une manière plus générale peut-être, on a donné nos avis la semaine dernière sur le DSA, on pense que c'est plutôt positif de notre côté, mais c'est tellement important que je serais curieux d'avoir l'avis d'autres personnes aussi, donc je vais peut-être poser la question aux intervenants régulièrement ces prochaines semaines. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces gros textes lourds et sans précédent dans l'Union européenne ?
Bah, je pense que c'est comme toi, c'est plutôt positif. Après, on peut débattre, est-ce que ça va assez loin, est-ce qu'il y a, voilà, on peut toujours dire qu'on peut toujours en faire mieux et toujours faire plus, mais en tout cas, il y a déjà des règles qui sont appliquées, il y a des règles qui sont éditées et qui permettent de corriger certaines choses qui ne devraient pas avoir lieu. Finalement, je pense par exemple à la publicité ciblée pour les enfants ou par rapport à certains critères, que ce soit les origines ethniques, les préférences sexuelles, choses comme ça, c'est bien qu'il y ait des règles qui soient établies. Le fait, par exemple, sur les marketplaces, qui paraît assez logique, de vérifier l'identité des vendeurs, ça devrait être quelque chose de normal, finalement. Des choses qu'on n'accepterait pas forcément dans la vie quand on vend dans un magasin ou dans la vie réelle et qu'on acceptait sur Internet. Donc ça, je trouve que c'est plutôt positif. Après, la question qui va se poser, c'est comment ça va être appliqué, en fait. Le RGPD, on l'a vu, voilà, le RGPD, c'est pareil, on peut dire c'est bien, c'est pas bien. L'un des gros défauts du RGPD, c'est que c'est difficile à appliquer, que c'est centralisé en Irlande, avec la commission, la CNIL irlandaise, qui centralise tout et qui met très peu d'amende à part à Facebook, finalement, pour résumer. Là, on a changé, c'est l'Union européenne, c'est la Commission européenne qui va être le gendarme du DSA, donc à voir si ils auront les moyens suffisants et la volonté politique aussi suffisante pour vraiment sanctionner, et notamment le test qu'on va voir, c'est très rapidement, c'est avec Twitter, parce qu'il y a des obligations de modération des contenus. On sait que Twitter, à part les notes de communauté, ne fait pas grand-chose, et que quand Thierry Breton est allé chez Twitter en juin, ils ont dit que Twitter n'était pas prêt pour le DSA. Donc voilà, très rapidement, on va avoir une vision très claire de est-ce que ça va être appliqué ou pas. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le DMA, donc le Digital Markets Act, qui lui rentrera en vigueur, je crois, en mars 2024. Voilà, qui va avoir des implications beaucoup plus grandes, en fait. Qui est le côté, donc le DSA, c'est plus le côté vie privée, modération, des choses comme ça. Le DMA, c'est le côté business, c'est dire, Apple, voilà, c'est fini, Apple et Google, c'est fini l'exclusivité de la boutique d'application, des choses. Et ça va avoir il y a plein de choses très concrètes qui vont être mises en place et qui vont être très intéressantes à voir. notamment, est-ce que ça va être appliqué qu'en Europe, ce qui pour l'instant semble être le cas,
oui.
Mais est-ce que finalement il n'y a pas à avoir un effet entraînement qui fait que d'autres pays vont se joindre, enfin, d'autres pays hors Union européenne vont se joindre à ça pour vraiment faire un truc un peu mondial, parce que je pense que le DMA a un impact beaucoup plus important sur ces grosses entreprises que le DSA. Le DSA, c'est pénible parce que c'est des obligations, c'est des moyens humains à mettre, il faut faire des audits tous les ans, il faut faire des rapports à la Commission européenne tous les ans, ce qui est pas très agréable, enfin pas très, voilà, j'ai envie de faire, mais finalement ça n'a pas trop d'impact sur leur activité, quoi, sur leur business. Le DMA, ça va être différent, et là moi ce qui m'intéresse, c'est voir, voilà, qu'est-ce qui va se passer avec le DMA. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose ou pas?
À voir, on continuera à suivre tout ça, effectivement. C'est marrant, c'est ce lien que tu fais avec la vie réelle, c'est vraiment l'intention, et c'est ce que mentionnait Mélinda la semaine dernière aussi, c'est vraiment l'intention du texte, c'est de rendre difficile, ou aussi difficile, ou au moins dans la même direction, ce qui est difficile dans la vie réelle que dans la vie, enfin, dans la vie sur le net que dans la vie réelle. Bref. Le fondateur de Foxconn s'était présenté aux élections à Taïwan, aux élections présidentielles à Taïwan en 2019. Il va se représenter en 2024. Bon, un gros industriel qui essaye de passer du côté politique. Moi, je trouve toujours ça intéressant parce que Foxconn, c'est quand même une réussite assez éclatante. Mais il n'avait pas réussi son pari en 2019. On verra en 2024.
Ce qui est intéressant, c'est que Foxconn, finalement, c'est thaïlandais, taïwanais, pardon, mais quasiment toutes leurs usines sont en Chine, et on sait les relations géopolitiques entre la Chine et Taïwan, donc c'est assez intéressant, et c'est peut-être pour ça qu'il n'était pas là. Enfin, je ne connais pas la politique taïwanaise, mais ouais. Il y a quand même un parallèle.
Un conflit d'intérêts, peut-être.
Ouais, voilà.
Ouais, peut-être. On me dit il faudrait une skin Patrick dans Fortnite. Attendez la fin du défi Fit Patrick. Je suis en train de perdre du poids régulièrement, mais à la fin, on fera plutôt que maintenant.
C'était pour Fortnite, en fait, tu faisais ça.
C'est ça, exactement, exactement. Et puis, qui est venu me voir, je leur ai dit, non, je suis un peu trop cher pour vous, les amis. Puis, ils m'ont dit, non, mais enfin, quand même, regarde, on peut rajouter un zéro. Alors, je dis, OK, je vais perdre un peu de poids et puis on en reparlera. Ça arrive. Mais à côté de cette intersection entre la vie des industriels et la vie politique, il y a un autre article qui m'a interpellé. C'est une société qui, depuis quelques années, discrètement, est en train d'acheter des centaines d'hectares, des centaines d'hectares autour de la Silicon Valley, enfin, dans le nord de la Californie, et qui a un financement d'énormément de gros VC et de gros géants de la tech, de la Silicon Valley, évidemment. On parle de gens comme Lorin Powell Jobs, Marc Andreessen, etc., etc. Et ce qu'elle fait, cette société, c'est visiblement qu'elle voudrait construire la ville idéale. Ils sont en train d'acheter des terres qui sont pas super utilisés, ou des trucs dont le rendement agraire est pas bon. Enfin, il y a toute une zone qu'ils sont en train d'acheter. Alors, il y a quelques controverses. Je vous mettrai là aussi le lien dans les notes de l'émission, le lien dans la newsletter. Mais ma première réaction, ça a été, allez, 1984, ça y est, les gens les plus riches du monde sont en train de construire une ville, genre la ville merveilleuse, machin. Et en fait, en regardant un petit peu plus, l'idée, c'est un petit peu comme ce qu'avait tenté Google, avec pas beaucoup de succès, hein, on s'en souvient, mais essayer plutôt de repenser ce qu'est une ville en l'imaginant dès le départ avec les contraintes et les bénéfices qu'on a aujourd'hui. Et je me dis, peut-être en tant que comme un test, ça pourrait être intéressant et on pourrait en tirer des enseignements. Donc j'ai un petit peu fait un 180 degrés, pas 180, mais on va dire 156 degrés sur l'idée. Je me suis dit, mais c'est dystopien. Peut-être, pourquoi pas.
Mais ça, c'est vrai qu'en plus, tu parlais de Google tout à l'heure, et l'un des problèmes des villes aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont pas été conçues pour ça, finalement. Donc, Il faut partir de zéro, en fait. Si tu veux vraiment créer une ville faite pour l'ère moderne, avec les technologies modernes, il faut quasiment partir de zéro, repenser tout de zéro, en fait. Surtout aux États-Unis, où toutes les villes, elles sont pensées pour la voiture. On sait que c'est pas forcément aujourd'hui... Si on doit construire des villes, aujourd'hui, on les construirait totalement différemment de ce qu'elles ont été avant, quoi.
C'est ça. Et c'est l'un des buts, effectivement, c'est d'avoir un focus important sur le transport public, ce qui, aux États-Unis, est assez, assez rare, on va dire, sur l'utilisation d'énergie renouvelable, etc., etc. Donc, peut-être, pourquoi pas. Bon, et dernière chose dont je voulais parler, c'est un truc dont je veux parler depuis des semaines, et à chaque fois, on n'a pas le temps, donc je me suis dit aujourd'hui, je vais juste le mentionner, c'est les infos sur le monde des crypto-monnaies. Et pas de la blockchain en général, mais peut-être par extension de la blockchain, mais on va dire plutôt des crypto-monnaies, parce que vous avez peut-être remarqué que depuis le début du crypto-winter, qui a l'air de se transformer en crypto-year ou two-year ou decade, je ne parle plus trop de news crypto. Et j'avais mentionné les déboires de FTX au moment où c'est arrivé, évidemment, mais depuis ce moment, je n'en parle plus trop. Donc vous vous demandez peut-être ce qui se passe au niveau des crypto-monnaies. Eh bien, c'est un petit peu la bérésina, quand même. Ce n'est pas qu'il y a que des news négatives. Ce n'est pas qu'il y a que du « telle société arrête son business dans tel domaine, telle société quitte tel pays, telle société ferme, telle... » Mais il y en a, je dirais, allez, 90% de « ça ne se passe pas très bien pour les crypto-monnaies » et par extension, les NFT et ce genre de choses. Il y a peut-être 10% quand même de « alors, telle société a reçu un investissement de temps pour faire telle chose spécifique, telle société essaye de conforter son assise sur tel ou tel type de marché, etc. » Ça existe encore. Ça serait mentir de dire qu'il n'y a plus de choses qui vont de l'avant dans le monde des crypto-monnaies. Mais dans l'ensemble... c'est quand même une grande majorité des news que je vois, ça n'a pas l'air de se porter super bien, ce marché, quoi.
Ouais, mais surtout, tu parles des startups qui reçoivent des investissements, il n'y en a quasiment plus, pour une raison simple, c'est que les gens ils sont passés à autre chose, ils sont passés à l'IA, quoi. Mmh. Et les investisseurs, aujourd'hui, ils mettent de l'argent dans l'IA, ils mettent plus d'argent dans les cryptos parce que, déjà, ils ont investi sur des valorisations qui étaient très élevées, qui étaient extrêmement démesurées. Et finalement, ils se rendent compte ou ils se disent que ça ne va pas être aussi porteur qu'ils le pensaient.
Exactement. Donc voilà, le petit point crypto, ce n'est pas que je ne veux pas en parler spécialement, c'est juste que voilà comment ça se passe. Maintenant, vous saurez. Et c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir été présent avec moi, de m'avoir fait profiter de ton expertise et d'avoir donné à cette émission des airs de sérieux. C'était vraiment apprécié à côté, tu vois. Par ici, c'est plutôt on fait des blagues pourries et en début d'émission et en milieu d'émission, il y a les enfants qui débarquent, tout ça, tout ça.
Mais on s'est amélioré quand même, je trouve que tu t'es amélioré, tu es monté en puissance quand même.
C'est vrai ? Ok, merci, merci, j'apprécie. Dis-moi, où peut-on te retrouver, notamment à partir de mardi prochain ? Ça revient.
Voilà, donc sur ma newsletter Cafétech, donc cafétech.fr, c'est une newsletter qui est envoyée tous les matins à 7h30. Très précise, hein. On décrypte l'actu tech, ce qu'on fait un peu ici, mais voilà, tous les jours, avec des sujets français, États-Unis, voilà, un peu de tout. Et puis sur Twitter, si vous voulez, je suis Jérôme Marin SF comme San Francisco, parce que comme tu l'as dit, j'ai habité à San Francisco et j'ai jamais changé mon pseudo Twitter. Voilà.
Est-ce que tu envisages le fait de payer pour Twitter Premium ?
Non.
Non, pas du tout.
Non, mais comme je disais, en plus, je n'utilise plus beaucoup Twitter et juste par principe, en fait. C'est plus ça que... mais j'ai créé un compte Fred.
Ah oui, voilà. Je comprends. Quand c'était encore accessible.
Non, parce que moi, comme j'ai un téléphone américain, j'ai un Play Store américain, donc je peux créer Fred.
Et tu peux y accéder, du coup, même depuis
l'Europe ? Oui, je peux y accéder, d'accord. Mais par contre, mais je peux pas vraiment... J'ai personne qui me suit parce qu'il n'y a pas vraiment de... mais bon, j'y suis quand même.
Malheureusement.
Juste pour dire.
Ouais, pour ma part, j'avoue que... je m'en cache pas, hein, je ne suis pas spécialement fan de ce que fait Elon Musk avec Twitter, au niveau éditorial, on va dire. Mais quand je vois la liste des fonctionnalités, j'ai toujours dit que les deux étaient un petit peu décorrélés dans mon esprit. Et je me demande si je n'ai pas envie d'avoir un petit macaron bleu, là. Même si on peut le cacher, on sait bien qui paye ou pas. mais certaines fonctionnalités pourraient peut-être me convaincre au bout d'un moment, quoi. Les messages plus longs avec un peu de formatage, mine de rien, pour un réseau qui est mon réseau de communication principal, le fait de pouvoir mettre des vidéos, de pouvoir streamer, etc. Je laisse encore venir, mais je suis pas suffisamment hypocrite pour dire, ou je sais pas, peut-être que c'est de l'hypocrisie. Non, je crois pas avoir prétendu que jamais de la vie, ou peut-être que je l'ai dit, mais bon, je sais pas. Mais en tout cas, en voyant, je crois que j'ai toujours dit que pour certains créateurs, ça pouvait être, ils pouvaient avoir un effet positif, intéressant, enfin, que ça pouvait valoir le coup d'avoir un compte premium. Jusqu'ici, je pense pas du tout, mais peut-être Patrick avec un marron bleu, ça me ferait mal aux fesses quand même, j'avoue.
Bref, tu ne crois plus être notre Patrick là, c'était vérifié.
Mais si, justement, c'est Patrick, le seul, le vrai notre Patrick, c'est le seul. Mais non, Patrick, il est déjà pris. Ouais. C'est un développeur de la Silicon Valley qui avait créé son compte avant moi. Et donc, c'est à cause de lui ou grâce à lui peut-être que moi j'ai choisi notre Patrick. Dans l'instant, j'ai vu Patrick est déjà pris. Oh merde, qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant, d'intelligent, tu sais, marketing mind. Comment un truc que le monde entier retiendra, c'est formidable, notre Patrick. Tu l'entends une fois, tu l'oublies plus jamais de ta vie. C'est encore plus que Patrick, tu vois.
C'est à rien.
C'est ça. Me retrouvez donc sur Twitter, mais aussi sur Mastodon et sur Blue Sky également, et sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Vous me retrouvez aussi sur Twitch. On est à 5994 followers sur Twitch. Incroyable. Plus que 6 pour faire partie des 6000 premiers followers de Twitch. Vous pouvez me retrouver là-bas. Vous avez aussi les replays sur YouTube. Tous les liens sont dans les notes de l'émission. Vous retrouvez aussi dans les notes de l'émission le lien vers Patreon, patreon.com/rdvtech. Vous me retrouvez là-bas pour soutenir l'émission. Vous le savez, hein, vous arrivez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling et là vous vous dites... Oh, Patrick, c'est quand même un mec sympa. J'aimerais bien lui envoyer 1 euro pour son podcast que j'apprécie et que j'attends chaque semaine et qui me fait plaisir quand je le vois apparaître dans mon app de podcast. Patreon.com/rdvtech. Quand vous rentrez chez vous, ou là, maintenant, vous êtes en train de regarder votre téléphone, allez sur patreon.com/rdvtech. Why not? Why not? Merci à vous tous, merci à vous toutes. Je vous envoie plein de bisous et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau rendez-vous tech, ou alors dans 2 jours à peine pour un rendez-vous jeu exceptionnel, évidemment, avec plein de sorties super intéressantes. Si vous aimez les jeux vidéo, là, c'est le moment de ne pas rater ce podcast également. Et sinon, donc, dans une semaine. Merci à tous et à toutes. Ciao, ciao.